L'Américain à Paris, de Henry James, tome 2e, chapitre 1er. Quand Newman revint rue de l'université, il eut la chance de trouver Madame de Saint-Tré seule. Il venait avec la résolution bien arrêtée de s'expliquer, et ne perdit pas de temps à mettre son projet à exécution. Du reste, il crut lire dans le regard de Madame de Saint-Tré un encouragement à parler. Il y a maintenant 6 mois que nous nous connaissons, et je ne vous ai jamais parlé de mariage. C'est là ce que vous m'aviez demandé. Je vous ai obéi. Pouvait-on mieux agir ?
Vous vous êtes conduit avec une grande délicatesse, répondit Madame de Saint-Tré.
Oui. Eh bien, je vais agir autrement maintenant. Je ne veux point dire que j'ai l'intention d'être indélicat, non, mais seulement de revenir à mon point de départ. Me voici de retour ici. J'ai fait le grand tour, ou plutôt je ne me suis jamais éloigné. Je n'ai jamais cessé de désirer ce que je désirais dans le principe. Seulement, je suis plus sûr de mon désir, si c'est possible, plus sûr de moi et plus sûr de vous. Je vous connais mieux, quoique je ne sache rien de plus que je ne savais il y a 3 mois. Vous êtes tout, au-dessus de tout ce que je pouvais rêver ou désirer. Vous me connaissez aujourd'hui, vous devez me connaître. Vous avez pu juger, je ne dirai pas mes qualités, mais mes défauts. J'espère que vous avez mûrement réfléchi. Vous avez bien vu, n'est-ce pas, que j'attendais seulement, et vous ne pouvez pas supposer que j'ai changé d'idée. Eh bien, que me direz-vous maintenant ? Dites-moi que vous êtes contente de moi, que j'étais patient et modéré, et que je mérite ma récompense, et puis accordez-moi votre main.
Je savais ce que vous attendiez, dit-elle, et j'étais sûre que le jour viendrait où cette explication aurait lieu. J'y ai beaucoup pensé. J'en étais presque effrayé d'abord, mais je n'ai plus peur aujourd'hui.
J'aime mieux cela, ajouta-t-elle après un moment de silence. Elle était assise sur une chaise basse, Newman sur un canapé près d'elle. Il se baissa légèrement et lui prit la main qu'elle lui abandonna sans résistance.
Cela veut dire que je n'ai pas attendu en vain, n'est-ce pas ?
Madame de Saint-Tré leva les yeux sur lui, les yeux humides de larmes.
Avec moi, continua-t-il, vous n'avez rien à craindre. Pas plus, il hésita un instant, cherchant un terme de comparaison, puis, avec une sorte de simplicité solennelle, il ajouta, pas plus que si vous étiez avec votre père.
Madame de Saint-Tré ne le quittait pas des yeux. Ses larmes l'aveuglaient. Alors brusquement, elle se cacha le visage contre les coussins du canapé et éclata en sanglots.
« je suis faible, » murmura-t-elle.
« Raison de plus pour vous mettre sous ma protection, » répondit Newman. « Qu'est-ce qui vous agite ? Il n'y a rien là qui doit vous troubler. Je ne vous offre que le bonheur. Est-ce donc si difficile à croire ?»«
Tout vous semble simple et facile à vous, » dit-elle en relevant la tête.
« Mais il n'en est pas ainsi. J'ai une grande affection pour vous. Je l'éprouvais déjà il y a 6 mois. Et maintenant je suis certaine de vous aimer autant que vous m'aimez vous-même. » Ce n'est pas une raison cependant pour qu'il soit si facile de décider notre mariage. Il y a tant de choses à peser et à considérer. La seule chose importante à laquelle nous devions penser, c'est que nous nous aimons, s'écria Newman. Et comme Madame de Saint-Tré gardait le silence.
Très bien, si vous ne pouvez accepter cela, ne me le dites pas.
Je serai bien heureuse de ne penser à rien, dit-elle enfin. De ne pas penser du tout, mais seulement de fermer les yeux et de m'abandonner. C'est impossible, malheureusement. Je suis apathique, je suis vieille, je suis lâche. Je n'ai jamais supposé que je me remarierais. Et il me semble si étrange de m'être laissé aller à vous écouter. Quand j'étais jeune fille et que je songeais à un mari, de mon goût, à celui que je choisirais si j'étais libre de choisir, je pensais à un tout autre homme que vous.
« Ce n'est pas un argument contre moi, » répondit Newman en riant. « Votre goût n'était pas formé. »
Sans rire, gagna Madame de Saint-Tré.
« Et vous l'avez formé, n'est-ce pas ? » dit-elle.
Après un moment de silence, elle reprit d'un ton différent. « Où désireriez-vous vivre ? » ?»«
Partout où vous voudrez. Nous pouvons facilement nous entendre sur ce point. »
« Je ne sais pas pourquoi je vous le demande. Je m'en inquiète peu. Si je vous épousais, je pourrais vivre n'importe où, je pense. » Vous avez des idées erronées à mon sujet.
Vous vous imaginez que je suis exigeante, qu'il me faut la croix et la bannière, que j'ai besoin d'une vie brillante et mondaine. Vous vous préparez, j'en suis sûr, à prendre beaucoup de peine pour me donner tout cela. Vous êtes dans une erreur profonde, et je n'ai rien fait pour justifier une telle opinion. » Elle s'arrêta de nouveau, en regardant Newman, puis, après un instant de silence, « Oui, vous ressemblez si peu à l'idéal que j'avais rêvé, que ce qui d'abord me semblait un obstacle, une difficulté, est devenu pour moi, peu à peu, un plaisir. Un grand plaisir. J'étais heureuse de la différence, et cependant, si je l'avais avoué, personne ne m'aurait comprise. Je ne parle pas seulement des membres de ma famille. On vous aurait dit que j'étais un monstre, hein? On m'aurait dit que je ne serais pas heureuse avec vous, que vous étiez d'un monde trop différent du mien, et j'aurais répondu « C'est justement pour cela que je serais heureuse. » Mais il m'aurait accablé de bonnes raisons. Ma seule raison à moi, c'est... » Elle s'arrêta de nouveau. « C'est que vous m'aimez, n'est-ce pas ?» murmura Newman. À défaut de meilleurs arguments, Madame de Saint-Tré se contenta de celui-là. Newman revint le lendemain, et comme il entrait dans la maison, il rencontra sur le pas de la porte du vestibule son amie Mrs. Bread. Elle lui fit, aussitôt qu'elle l'aperçut, la plus gracieuse de ses révérences, et ensuite, se tournant vers le domestique qui l'avait introduit, lui dit de ce ton de majesté qui lui était naturel et que rendait encore plus impératif son dur accent anglais, « Vous pouvez vous retirer, j'aurai l'honneur de conduire monsieur. » Malgré qu'elle en eût, cependant, Newman crut remarquer que sa voix tremblait légèrement, comme si le commandement ne lui fût pas habituel. Le domestique ne répondit que par un coup d'œil impertinent et sortira lentement. Mrs. Bread conduisit Newman au premier étage. À moitié chemin, à une porte de renfoncement formant plateforme, elle s'arrêta près d'une statue de nymphe, du temps de Louis XV, au sourire niais, jaunâtre, toute crevassée, et se retournant vers l'Américain avec un regard de bonté timide. « Je sais les bonnes nouvelles, monsieur, » murmura-t-elle. « Il n'est que juste que vous ayez été la première à les apprendre, » répondit Newman. « Vous m'avez témoigné un intérêt si amical. » Mrs. Bread baissa les yeux et se mit à épousseter de la main la statue, intimidée de ce qu'elle craignait être une moquerie. « Votre intention est de me féliciter, je pense, » continua Newman. « Je vous suis infiniment obligé. » Et il ajouta, un instant après, « Vous m'avez fait le plus grand plaisir l'autre jour. » Elle se retourna, l'air rassuré. « Ne croyez pas qu'on m'ait rien dit. Seulement j'ai fait des conjectures. Et en vous regardant tout à l'heure au moment où vous entriez, j'ai vu tout de suite que j'avais deviné juste. Vous êtes vraiment très perspicace. Nul doute que dans votre modeste sphère, rien ne vous échappe de ce qui se passe autour de vous. Je ne suis pas une imbécile, Dieu merci. J'ai deviné bien d'autres choses. Ah ah, et quelles choses? Inutile de vous les dire, monsieur, vous ne les croiriez pas. En tout cas, elles ne vous plairaient pas. Oh, ne me dites que les choses agréables à entendre, répondit Newman en riant. C'est ainsi que vous aviez commencé. Eh bien, monsieur, je suppose qu'il ne vous sera pas désagréable d'apprendre que, plus tôt tout sera terminé, mieux cela vaudra. Plus tôt nous serons mariés, vous voulez dire. Ce sera le mieux pour moi, bien certainement. Le mieux pour tous. Pour vous aussi, peut-être. Vous devez rester à notre service, vous savez. C'est bien aimable à vous, monsieur. Mais ce n'est pas à moi que je pensais. Mon intention était seulement, si j'osais prendre cette liberté, de vous recommander de ne pas perdre de temps. De qui vous méfiez-vous ? Mrs. Bread regarda en haut, puis en bas de l'escalier, puis la nymphe poussiéreuse, comme si elle pût entendre. « De tout le monde, » dit-elle tout bas. « Voilà un état d'esprit peu agréable, » fit Newman. « Est-ce que tous ici veulent empêcher mon mariage ?»« Je crains de vous en avoir déjà trop dit. Je ne rétracte rien de mes paroles, mais je ne dirai rien de plus. » Et continuant à monter l'escalier, elle conduisit Newman au salon de Madame de Saint-Tré. Newman ne put réprimer une légère et silencieuse imprécation en s'apercevant que Madame de Saint-Tré n'était pas seule. Sa mère était assise à côté d'elle et au milieu de la chambre, Madame de Bellegarde, le chapeau sur la tête et son mantelet sur les épaules, se tenait debout. La vieille marquise, le dos renversé dans son fauteuil, le regarda fixement, sans bouger. Elle semblait à peine avoir conscience de sa présence et du salut qu'il lui adressa. Elle était évidemment absorbée dans de profondes réflexions. Newman se dit que sa fille lui avait sans doute annoncé son prochain mariage, et que la vieille dame trouvait la nouvelle pénible. Mais Madame de Saint-Tré, en lui donnant la main, lui lança un regard dont la signification précise lui échappa. Était-ce un avertissement ou un ordre? Désirait-elle qu'il parlât ou gardât le silence? Son embarras était grand, et l'air pincé de la charmante Madame de Bellegarde l'augmentait encore. « Je n'ai pas encore parlé à ma mère, » dit brusquement Madame de Saint-Tré, en regardant Newman. « Parlez de quoi ?» demanda la marquise. « Vous ne me dites jamais que si peu de choses quand vous devriez me dire tout. »« C'est là ce que je fais, moi ?» s'écria Madame Urbain, en riant d'un petit rire sec. « Permettez-moi d'apprendre à votre mère, » dit Newman. La vieille dame le regarda de nouveau fixement, puis se tournant vers sa fille. « Vous allez l'épouser ?»« Oui, ma mère. » « Votre fille a consenti, à ma grande joie. » « Et quand cela a-t-il été convenu ?»« J'ai l'air d'apprendre les nouvelles par hasard, vraiment. » ?»« Mon incertitude a cessé hier. » « Et combien de temps la mienne devait-elle durer ?» demanda la marquise, le regard fixé sur sa fille. Elle parlait sans irritation, avec une sorte d'amertume froide, pleine de noblesse. Madame de Saint-Tré garda le silence, baissant les yeux. « Tout est décidé maintenant. » dit-elle enfin. « Où est mon fils ? Où est Urbain ? Envoyez prévenir votre frère, qu'il sache ce qui se passe. » La jeune marquise posa la main sur le cordon de la sonnette. « Il avait à faire quelques visites avec moi, et je devais l'avertir en frappant tout doucement à la porte de son cabinet, mais il est plus simple qu'il vienne ici. » Elle tira la sonnette. Quelques instants après, Mrs. Brett parut. « Faites demander votre frère, » dit la douairière à Madame de Saint-Tré. Newman ne put résister au désir de prendre la parole. « Prévenez le marquis que nous avons besoin de lui, » dit-il d'un ton décidé à Mrs. Brad, qui sortira tranquillement. Madame de Bellegarde s'approcha de sa belle-sœur et l'embrassa, puis se tournant vers Newman avec un gracieux sourire. « Elle est charmante, je vous félicite. »« Tous mes compliments, monsieur, » dit la marquise de sa voix la plus solennelle. « Ma fille est une bonne et excellente femme. Elle a peut-être des défauts, mais je ne les connais pas. » « Ma mère se laisse rarement aller à plaisanter, » s'écrie Madame de Saint-Tré, « mais quand cela lui arrive, ses railleries sont terribles. »« Elle est adorable, » reprit la marquise Urbain, en regardant sa belle-sœur, la tête penchée. « Oui, je vous félicite. » Madame de Saint-Tré se détourna, et prenant sa tapisserie, se mit à travailler avec une ardeur fébrile. Après quelques minutes d'un silence profond, Monsieur de Bellegarde arriva, son chapeau à la main, ganté, et suivi de son frère Valentin qui venait à l'instant de rentrer à l'hôtel. Monsieur de Bellegarde jeta un coup d'œil rapide dans le salon et sur la Newman avec sa courtoisie compassée habituelle. Valentin, après avoir souhaité le bonjour à sa mère et à ses sœurs, donna une cordiale poignée de main à son ami en l'interrogeant vivement du regard. « Arrivez donc, messieurs, » s'écria la jeune Madame de Bellegarde. « Nous avons à vous annoncer de grandes nouvelles. » « Parlez à votre frère, ma fille. » dit la vieille marquise. Madame de Saint-Tré n'avait pas quitté des yeux sa tapisserie. Elle leva la tête et regarda son frère. « J'ai accepté la main de M. Newman. »« Oui, votre sœur a consenti, » dit Newman. « Vous le voyez, je savais bien après tout ce que je faisais. »« Je suis charmé, » dit M. de Bellegarde d'un ton de douce supériorité. « Et moi aussi, » s'écria Valentin. « Le marquis et moi, nous sommes charmés. » « Si je ne puis me marier moi-même, je comprends du moins que les autres se marient. Je ne peux pas me tenir sur la tête, mais ça ne m'empêche pas d'applaudir un habile acrobate. Ma chère sœur, je bénis votre union. » Le marquis resta quelques instants comme absorbé dans la contemplation de la forme de son chapeau. « Nous nous attendions à l'événement, » reprit-il enfin, « mais son annonce doit nécessairement nous produire une certaine émotion. » Et il se mit à rire d'un rire forcé. « J'ai été parfaitement préparé à l'émotion que je ressens, » dit la douairière. « Je n'en dirai pas autant de moi, » fit Newman, avec un sourire tout différent de celui du marquis. « Je suis plus heureux que je n'avais osé l'espérer. C'est peut-être la vue de votre joie. »« Oh, n'exagérez rien, » reprit Madame de Bellegarde en se levant et en posant la main sur le bras de sa fille. « Vous ne pouvez attendre qu'une vieille mère vous remercie de lui enlever son admirable fille, sa fille unique. » « Vous m'oubliez, chère madame, » s'écria la jeune marquise d'un air de modestie affectée. « Oui, elle est admirablement belle, » dit Newman. « Et à quand le mariage, je vous prie ?» continua la jeune madame de Bellegarde. « Il me faut au moins un mois pour préparer ma toilette. »« C'est une question à discuter, » observa la douairière. « Oh, nous l'examinerons et vous serez averti à temps, » dit Newman. « Nous tomberons d'accord, je n'en fais aucun doute, » répondit le marquis. « Si vous ne vous entendez pas avec madame de Saint-Tré, c'est que vous serez bien déraisonnable. » Sa femme lui mit la main sur le bras. « Venez, venez, Urbain, je cours à l'instant chez ma couturière. » La vieille marquise était restée debout devant sa fille, la regardant fixement. Elle poussa un léger soupir en murmurant. « Non, je ne m'attendais pas à cela. »« Vous êtes un homme heureux, » ajouta-t-elle en s'adressant à Newman avec un signe de tête expressif. « Oh, je le sais. Je me sens terriblement fier. Je voudrais crier mon bonheur sur les toits, arrêter les gens dans la rue pour le leur annoncer. » Madame de Bellegarde pinça les lèvres. « N'en faites rien, je vous prie. » Plus on le saura, mieux cela vaudra. Je n'en ai pas encore parlé à Paris, mais j'ai télégraphié la nouvelle en Amérique. Télégraphié en Amérique? À New York, à Saint-Louis et à San Francisco. Ce sont nos principales villes, vous savez. Demain, je l'annoncerai à mes amis de Paris. Et en avez-vous beaucoup? Demanda Madame de Bellegarde, d'un ton dont, je le crains, Newman ne comprit pas toute l'impertinence. Assez pour être certain d'un grand nombre de poignées de main et de compliments. « Sans parler, » ajouta un moment après le brave américain, « de ceux que je recevrai de la part de vos amis à vous. »« Nous n'emploierons pas le télégraphe pour répandre la nouvelle, » dit la marquise en quittant le salon. Monsieur de Bellegarde s'approcha de Newman et lui dit avec un accent plus significatif qu'à l'ordinaire, en lui serrant la main, « Vous pouvez compter sur moi. » Il offrit alors le bras à sa femme, qui, ne pensant sans doute qu'à sa couturière, s'occupait exclusivement en ce moment des plis de la traîne de sa robe et sortit du salon avec elle. Valentin était resté assis, regardant tour à tour sa sœur et son futur beau-frère. « J'espère que vous avez sérieusement réfléchi tous les deux, » dit-il tout à coup. Madame de Saint-Tré sourit. « Nous n'avons ni l'un ni l'autre votre puissance de réflexion ou votre profondeur de jugement, mais nous avons fait de notre mieux. »« Très bien. » »« J'ai une grande estime pour chacun de vous, » continua Valentin. « Vous êtes des gens charmants. Je ne suis pas convaincu cependant que vous apparteniez à cette classe supérieure et si peu nombreuse, ce groupe délicat et exquis, des êtres dignes de rester célibataires. Ce sont des âmes rares, l'œuvre est celle de la terre. Mais après tout, je ne veux pas être injuste. On peut être marié et fort aimable, je le reconnais. » Valentin a une théorie à lui. « Il prétend que les femmes devraient se marier, mais non les hommes, » dit Madame de Saint-Tré. « Je ne sais comment il arrange cela. »« J'arrange cela en vous adorant, ma sœur. Au revoir. »« Adorez une femme que vous puissiez épouser, » s'écria Newman. « C'est encore ce que vous avez de mieux à faire, et je vous y aiderai quelque jour. » Valentin était sur le seuil de la porte. Il se retourna. Son visage avait pris soudain un air de gravité étrange. « J'adore une femme que je ne puis épouser, » dit-il. Il laissa retomber la portière et sortit. « Ils ne sont pas contents. » fit Newman, resté seul avec Madame de Saint-Tré. « Non, » répondit-elle après un instant d'hésitation, « ils ne sont pas contents. »« Eh bien, maintenant, est-ce que vous vous en préoccupez ?»« Oui. » »« Vous avez tort. Que voulez-vous, c'est plus fort que moi. Je préférerais voir ma mère satisfaite. »« Pourquoi diable ne l'est-elle pas ? Elle vous a laissé libre de m'épouser. »« C'est vrai, je n'y comprends rien. Et cependant, cela me préoccupe, comme vous dites. » Vous m'accuserez peut-être de scrupules exagérés. Cela dépend de vous, interrompit Newman. Il est évident que si vous ne savez pas résister à l'influence et à la pression de votre mère, il en résultera pour vous de terribles ennuis. Je les garderai pour moi seul, vous n'en pâtirez pas. Ils parlèrent alors du jour du mariage et Madame de Saint-Tré accéda sans réserve au désir de Newman de le voir fixer à une date prochaine. On répondit avec empressement au télégramme de Newman. Il avait envoyé 3 dépêches. Il ne reçut pas moins de 8 bulletins de compliments. Il les mit dans son portefeuille et, à sa première rencontre avec la vieille Madame de Bellegarde, s'empressa de les en tirer et de lui en donner lecture. C'était là une petite malice de sa part. Newman n'ignorait pas que la marquise avait été vexée de l'envoi de ses télégrammes, quoiqu'il ne pût s'expliquer pourquoi. Mais Madame de Saint-Tré s'en était amusée et avait ri de bon cœur de leur rédaction humoristique. Newman, maintenant que sa cause était gagnée, éprouvait un irrésistible besoin de faire connaître son triomphe, tandis que les Bellegarde, au contraire, tout le lui prouvait, évitaient avec le plus grand soin d'en ébruiter la nouvelle, affectant même dans leur cercle intime d'en parler le moins possible, et il lui était agréable de penser qu'en se donnant la peine, il pouvait, selon son expression, briser les vitres. Personne n'aime à être mis sous le boisseau. Newman, cependant, quoique tous, dans la famille, lui fissent froide mine, ne se sentait pas offensé. Son désir, quelque peu agressif, de divulguer son bonheur, n'avait pas cette bonne excuse. C'était un tout autre sentiment qu'il poussait. Il voulait forcer, une bonne fois, les chefs de la maison de Bellegarde à le connaître et trouver l'occasion favorable. Depuis 6 mois, il se rendait vaguement compte que la vieille marquise et son fils aîné visaient au-dessus de sa tête, et il était maintenant résolu à les faire tirer au but qu'il se donnerait la satisfaction de fixer lui-même. C'est l'effet qu'on éprouve en voyant se vider une bouteille dont on verse le vin trop doucement, dit-il à Madame Tristram. Il me donne l'envie de leur pousser le coude afin que le vin coule plus vite.
Vous feriez mieux de ne pas vous en occuper et de laisser les choses suivre leur cours naturel, répondit Madame Tristram.
Rien d'étonnant à ce qu'ils hésitent un peu à s'enflammer. Ils vous ont accepté, c'est déjà beaucoup. Ce ne sont pas des gens d'imagination. L'avenir les effraie et ils ont besoin de s'habituer à l'idée de ce mariage. Mais ils n'ont qu'une parole et ils la tiendront.
Newman, pendant quelques instants, parut plongé dans une profonde méditation.
« Je ne leur en veux pas, » fit-il enfin, « et pour le prouver, je les inviterai tous à un festival. »«
Un festival ?»«
Oui. Vous vous êtes moqué tout l'hiver de mes grands salons dorés. Je vous montrerai qu'ils sont bons à quelque chose. Je donnerai une fête. Je veux que ce soit de le grand genre. J'aurai les meilleurs chanteurs de l'opéra et les plus célèbres comédiens du théâtre français. Une réception splendide. »«
Et qui inviterez-vous ?»«
Vous d'abord. » Et puis la vieille marquise et son fils, et tous leurs amis que j'ai rencontrés chez eux ou ailleurs, tous ceux qui m'ont montré la moindre courtoisie, tous leurs ducs et leurs femmes, puis tous mes amis, sans exception.
Miss Kitty Upjohn, Miss Dora Finch, le général Packard, C.P. Hutch et les autres.
Et tous sauront de quoi il s'agit, c'est-à-dire que la fête est donnée en l'honneur de mes fiançailles avec Madame de Saint-Tré. Que pensez-vous de mon idée ?
Je pense qu'elle est odieuse, dit Madame Tristram.
Et un moment après, décidément, ce sera délicieux.
Le lendemain soir, Newman se présenta chez la marquise. Elle était dans son salon entourée de ses enfants. Il l'invita à honorer de sa présence son pauvre logis un certain soir de la quinzaine suivante. La marquise ouvrit de grands yeux étonnés.
« Mon cher monsieur, que désirez-vous faire de moi ?
Vous faire la connaissance de quelques personnes, vous prier de vous asseoir confortablement dans un fauteuil, et d'écouter le chant de Madame Frezzolini.
Vous avez l'intention de donner un concert,
quelque chose dans ce genre-là,
et d'avoir beaucoup de monde.
Tous mes amis, et j'espère quelques-uns des vôtres et de votre fille, je voudrais célébrer mes fiançailles. »
Il sembla à Newman que Madame de Bellegarde pâlissait. Elle déploya son éventail, un bel éventail du XVIIIe siècle, finement peint, en examina les peintures, une fête champêtre. Une dame avec une guitare, chantant au milieu d'un groupe de danseurs entourant un Hermès en guirlandais.
« Nous sortons si peu, » murmura le marquis, « depuis la mort de mon pauvre père. »«
Mais mon père chéri vit encore, mon ami, » dit sa femme. « Je n'attends que mon invitation pour accepter. »
Elle lança à Newman un coup d'œil d'aimable confiance.
« Ce sera magnifique, j'en suis bien sûr. »
J'ai le regret de l'avouer, à la honte de Newman, il n'eut pas la galanterie d'adresser à la jeune femme une invitation immédiate. Il prêtait toute son attention en ce moment à la vieille marquise qui lui disait en souriant.
« Je ne puis me faire à l'idée de vous laisser nous offrir une fête avant de vous en avoir offert une nous-mêmes. Nous désirons aussi vous présenter à nos amis. Nous les inviterons tous. Nous avons cela à cœur. Il faut procéder par ordre. Revenez me voir vers le 25 courant. Je vous dirai alors le jour. »
Nous n'aurons pas de cantatrice aussi célèbre que la Frezzolini, mais nous tâcherons de faire les choses convenablement. Une fois notre fête donnée, il pourra alors être question de la vôtre. »
La vieille dame parlait avec une sorte de vivacité mordante, accentuant chaque mot d'un sourire de plus en plus gracieux. La proposition sembla généreuse à Newman. Il en fut touché. Il répondit à Madame de Bellegarde qu'il serait heureux de venir le 25 courant ou tout autre jour. Il lui importait fort peu que ses amis se rencontrassent chez lui ou chez elle. Newman était un observateur, je l'ai déjà dit. Il faut avouer cependant qu'en cette circonstance, il ne remarqua pas le regard qu'échangèrent Madame de Bellegarde et le marquis, éloquent commentaire de l'innocence dont il fit preuve dans ses dernières paroles. Valentin de Bellegarde l'accompagna ce soir-là quand il quitta la rue de l'université. Après avoir marché quelque temps en silence, il s'écria brusquement « Ma mère est très forte, très forte. »« Très forte, en quel sens ?»« Elle vous a mis au pied du mur, et vous ne vous êtes aperçu de rien. » Sa fête du 25 courant est une idée qui lui est venue tout à coup. Elle n'avait pas la moindre intention de donner une fête. Mais cela lui a paru la seule manière de se dépêtrer de votre proposition. Elle a regardé courageusement la pilule, excusez l'expression, et l'a avalée sans grimace, comme nous l'avons vu. Elle est très forte. « Ah, grand Dieu !» s'écria Newman, en haussant les épaules d'un air de pitié. « Je me soucie de sa fête comme de ça. Je l'en tiens quitte. L'intention me suffit. Non, non. » dit Valentin avec une nuance de fierté. « Il n'y a pas à y revenir maintenant. La chose sera faite et bien faite. »